Radio TerraZen, la web radio qui vous éveille à la vie en toute simplicité.
Bonsoir chers auditeurs, vous êtes bien sur Radio TerraZen. Nous sommes ce soir avec Anne-Catherine Sabas pour son émission mensuelle consacrée à la psychologie. Je suis Olivier Ravaille qui va l'interviewer pour vous. Ceux de nos auditeurs qui nous connaissent sont habitués à notre duo. Bonsoir Anne-Catherine.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous.
Ce soir, nous nous consacrons au thème « Faire la paix avec son passé ». J'en profite pour vous indiquer que notre prochaine émission sera le 7 juin, alors toujours le mardi, hein, comme d'habitude, 21h30, le premier mardi de chaque mois. Donc mardi 7 juin, nous aborderons le thème « Porter la paix dans la tourmente ».
Oui, un thème intéressant.
Alors, en préambule, quelques renseignements sur Anne-Catherine, qui est psychothérapeute à Fontenay. Depuis 18 ans déjà, et écrivain également, auteur d'une vingtaine d'ouvrages. Et elle a un site internet qui est www.anne-catherine-sabas.com, S-A-B-A-S, anne-catherine-sabas.com. Anne-Catherine, est-ce que vous voulez nous dire quelques mots de votre actualité ?
Oui, tout à fait. Alors déjà, je reviens de vacances et c'était bien agréable.
Chouette.
Voilà, ceux qui nous connaissent savent que j'aime bien plaisanter un petit peu. Alors l'actualité, excusez-moi, je vais juste me borner aux événements proches parce qu'il y en a d'autres prévus jusqu'à la fin de l'année. Là, pour l'instant, nous aurons le 20 mai, c'est-à-dire un vendredi dans deux semaines, un petit peu plus de deux semaines, une conférence que je vais proposer. Ça sera plus une présentation. Je parlerai un petit peu de mes livres et de mon travail dans le cadre de l'inauguration d'une association qui s'appelle les Fourmis Argentées. Alors, les Fourmis Argentées, c'est une contraction de fourmis et de famille. Il se trouve que les Fourmis Argentées sont des fourmis très particulières qui ont une organisation telle qu'elles ont besoin les unes des autres et qu'elles s'entraident. Voilà. Et donc, la personne qui a créé cette association a inventé ce mot, les Fourmis Argentées. Il s'agit donc d'une association qui vient en aide, pour faire court, aux familles monoparentales, avec tous les défis que ça peut comporter en termes d'organisation, de solitude, de difficultés parfois financières. Et dans ce cadre-là, on m'a demandé d'intervenir dans le cadre de cette association pour peut-être proposer des ateliers, faire des conférences, parler de mes livres. Donc l'inauguration aura lieu donc le vendredi 20 mai, l'après-midi, devant les locaux de l'association à Fontenay-sous-Bois, 4 allée Maxime Gorki, et je présenterai donc mon travail et mes livres à 16h. Le lendemain, le samedi 21, dans le cadre du Festival du Livre du 5e arrondissement à Paris, je serai avec la librairie Édition Bussière, chez qui j'ai publié 6 ouvrages maintenant. Je serai donc à la rencontre des lecteurs, passants, promeneurs, touristes, devant les locaux de la librairie Édition pour dédicacer mes ouvrages, donc l'après-midi en fait, entre 14 et 17 heures, en espérant qu'il fera beau, on pourra papoter tranquillement dans la rue. Donc la librairie Bussière se trouve rue Saint-Jacques, au 34, à Paris, dans le 5e arrondissement. Et puis, le dernier événement dont je vais vous parler, c'est le deuxième volet de nos journées musicales alchimiques avec Isabelle Ogmar, que vous pouvez retrouver aussi sur mon site, Isabelle, où vous découvrirez tout ce qu'elle fait de merveilleux avec ses instruments et ses vibrations thérapeutiques. Il s'agit donc d'un atelier thérapeutique, les places sont très limitées et nous préparons un petit programme qui va permettre de favoriser la rencontre avec son être profond. Voilà, je n'en dis pas plus. Vous trouverez toutes les infos sur mon site dans la rubrique agenda. Voilà pour l'instant. Et puis d'autres conférences, mais tout ça, ça sera annoncé au fur et à mesure.
Et pour les lecteurs qui suivent la bibliographie d'Anne-Catherine, son dernier ouvrage, c'est Le pouvoir d'être heureux, renaître au bonheur chaque jour. C'est le sous-titre aux éditions Bussière qui est sorti en janvier.
En janvier, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a certainement plein de choses dans ce livre dont on pourrait parler aujourd'hui, mais il y a aussi tellement d'autres choses que... Voilà.
Alors, je vous propose qu'on aborde notre sujet. Donc, ce soir, nous parlons de faire la paix avec son histoire. Faire la paix avec son histoire, donc, auditeur, il s'agit évidemment de notre histoire individuelle.
Tout à fait, oui.
Parce que sinon, évidemment, le thème est trop grand. Faire la paix avec son histoire individuelle. Donc, déjà, la première évocation, quand on parle de faire la paix avec son histoire, c'est une histoire, c'est subjectif. Mon histoire est subjective et elle dépend notamment de la façon dont je m'en fais le récit moi-même.
Absolument. Alors, plein de gens d'ailleurs peuvent raconter notre histoire d'une manière absolument différente. Mais si nous parlons aujourd'hui de faire la paix, hein, on est dans ce cycle d'émissions en route vers la paix, qui est un thème, comme vous le savez, qui m'occupe beaucoup. Si nous parlons de faire la paix, c'est que ce n'est pas forcément évident et qu'il y a parfois des difficultés à être en paix avec son histoire. Alors, pourquoi on n'est pas en paix avec son histoire? Parce que la façon dont nous l'avons vécue et la façon dont nous la ressentons, à chaque émission, je dis la même chose, hein, c'est dans le corps que ça se passe, dans le ressenti, dans les émotions. Une histoire qui serait consignée dans un livre froide et déshumanisé, on n'a pas de problème avec. Ce qui nous pose problème, c'est qu'à un moment donné, ça nous fait souffrir. Et c'est de ça dont il va être question. Ça va être d'aller retrouver, si c'est nécessaire, des moments, des points temporels qui ont été marquants, traumatisants, pour aller les dénouer en quelque sorte et aller les apaiser.
Oui, il est vrai que notre histoire est principalement le récit de nos émotions. Je pensais à la manière dont on... moi, je n'aimais pas l'histoire au sens scolaire quand j'étais à l'école. Plus tard, ça m'a intéressé. Mais je constate que quand on apprend l'histoire aux enfants et qu'on leur sort des suites de dates sur des choses très abstraites, la plupart du temps, ils ne s'en souviennent pas. D'abord parce que ça ne les intéresse pas, mais aussi parce qu'ils ne peuvent rien éprouver dessus. Moi, je me souviens d'un prof d'histoire dans une école où j'ai été prof il y a de très 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 longues années, qui, pour raconter l'histoire de la guerre de 14 à ses élèves, renversait des tables, mimait des combats, etc. Et en fait, les enfants étaient passionnés par ce prof, parce qu'il leur faisait vivre des choses, et probablement les enfants s'en rappellent encore 20 ou 30 ans après, alors qu'ils ne se rappellent plus deux jours après de tel cours d'histoire, où on dit 1914, 1915, 1916. Et pour nous, oui, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que notre histoire, c'est l'histoire des émotions qu'on a éprouvées, plus que l'histoire des informations qui sont passées par nous, etc.
Oui, parce que si on n'a pas besoin de faire la paix, c'est même pas la peine d'en parler. C'est-à-dire que on reconnaît qu'on n'est pas en paix avec son histoire dans la mesure où elle nous fait souffrir. Oui. Quand on peut parler de notre histoire avec détachement, en souriant, moi j'entends des fois des gens qui me disent « Ah bah oui, ça c'est l'année où j'ai été violée. Hein? » Ouais. Et ils ont fait ce cheminement qui leur a permis d'une part de réaliser qu'ils avaient survécu à ça et que toutes les conséquences, ou en tout cas la plupart de ce traumatisme, avaient été petit à petit apaisées. Et aujourd'hui, c'est un point, en effet, dans leur récit, ouais, mais qui n'est plus associé à un drame, en fait. Et ce que nous recherchons en évoquant ce thème-là, faire la paix avec son histoire, c'est nous essayons de nous demander, est-ce qu'il y a des parties de nous que nous avons abandonnées, refoulées, dont nous nous sommes coupés à un moment donné, parce qu'elles étaient insoutenables, parce qu'elles étaient trop douloureuses, ou parce que dans le regard des autres, elles étaient insoutenables aussi. Je pense à une de mes patientes il y a quelques jours qui m'a raconté qu'elle avait rompu une relation avec un membre de sa famille à qui elle tenait beaucoup, parce que cette personne avait porté un regard sur quelque chose de son histoire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, cette personne, donc ma patiente, avait vécu quelque chose quand elle était très jeune, et dans sa culture, un adulte censé montrer l'exemple avait jugé que c'était quelque chose d'impardonnable et donc avait rompu cette relation. C'est-à-dire que cette jeune femme se retrouve avec une histoire qui a été pas acceptée par quelqu'un d'autre. Donc elle a un regard sur elle-même qui est plein de honte, plein de culpabilité, parce que cette partie de son histoire qui ferait sourire n'importe qui de nos jours, hein, là on est dans une autre culture et dans un autre temps, cette partie de son histoire est tout bonnement pas acceptable. Ça a entraîné un bannissement, hein, une mise à l'écart totale de la famille. Donc il va falloir, elle, alors qu'elle était en accord avec ce qu'elle faisait sur le moment, il va falloir qu'elle fasse la paix avec cette partie d'elle-même, parce qu'elle a intériorisé ce jugement. Et aujourd'hui, quand elle en parle, elle a l'impression d'avoir fait un truc absolument abominable.
Ce qui veut dire que, toute seule avec elle-même, il faut à la fois qu'elle se détache et qu'elle se regarde, ce qui est, alors en tant que psychothérapeute, évidemment, c'est votre sujet principal, c'est difficile de faire tout seul tout le chemin. Il y a un moment donné où il y a nécessité d'un regard.
Et oui.
Extérieur, qui ne connaît pas votre histoire, mais qui est là en quelque sorte protecteur.
Parce que pour l'instant, cette personne, elle est complètement collée au regard de l'autre. C'est-à-dire qu'elle a intériorisé ce regard, elle a intériorisé ce jugement. Et quand elle parle de ce qu'elle a fait, il y a une partie d'elle qui n'est pas d'elle au départ, qui est cette partie qu'elle a intériorisée, puisque si avoir fait ça est synonyme de rejet, son inconscient a compris que c'était quelque chose de très très grave. Pour notre cerveau archaïque, si on est rejeté du clan, ça veut dire qu'on a fait quelque chose qui est absolument impardonnable. Notre cerveau archaïque n'envisage pas une seule seconde que la personne qui nous a jugés se soit trompée. Alors qu'en fait, c'est ça. La personne qui l'a jugé a eu un jugement complètement arbitraire et extrêmement cruel. Et donc, le premier travail, c'est qu'elle arrive à réaliser qu'elle s'est, qu'elle a été polluée, qu'elle a été habitée, si on peut dire, j'ai presque envie de dire, vampirisée, habitée par quelque chose qui ne lui appartient pas.
Envahie,
voilà, merci, et dont elle doit dans un premier temps se détacher. Et après, une fois qu'elle a identifié que ce regard-là n'est pas le sien, c'est un regard parmi d'autres qui peut être totalement remis en question, il va falloir qu'elle le remette en question pour pouvoir aller regarder son histoire avec son jugement à elle. C'est-à-dire que tous les jugements que les autres, que la société, que la morale, que telle ou telle culture, telle ou telle névrose de ceux qui osent nous juger, tous ces jugements qui ont été portés sur nous, finalement, nous éloignent de nos propres valeurs, de notre propre bon sens, et nous font porter des fois des culpabilités qui peuvent entraver toute notre vie. Et faire la paix avec son histoire, c'est d'abord faire le tri entre ce que les autres nous ont raconté de notre histoire. Hein ? C'est l'histoire du vilain petit canard, ça. C'est l'histoire de celui qui est rejeté parce qu'il est différent. C'est l'histoire de tous ces jugements qui sont portés sur des enfants différents, sur des gens différents, sur des races différentes, et qui finalement vont donner à la personne qui les subit une image d'elle complètement abîmée, qui va l'entraver dans toute sa vie et qui va l'empêcher de découvrir qui elle est vraiment. Parce qu'elle est vampirisée, c'est comme si elle était recouverte de quelque chose qu'on aurait projeté sur elle.
Alors, en vous écoutant, je me dis que finalement, est-ce que nous, je parle de nous tous en fait, est-ce que nous connaissons notre histoire ? Moi, dans mon métier de réorientation professionnelle, il m'arrive très fréquemment, quasiment avec chaque personne, d'inviter la personne à raconter des réalisations professionnelles. Presque à chaque fois, La personne revient de en ayant fait ce simple récit, revient apaisée avec une image renforcée, juste parce qu'elle s'est rappelée des choses. Il n'y a pas eu besoin d'hypnose, hein, c'est des événements où elle se dit, ah bah oui, je les ai écrits, ah c'est vrai que quand même, je me rendais plus compte que j'avais fait tout ça. En général, c'est dit avec un apaisement qui fait vachement de bien à voir. Mais du coup, nous, autant qu'on est tous, on est habitués à raconter en entretien avec des amis, éventuellement avec son conjoint, avec des gens qu'on rencontre, etc. On est habitué à raconter une histoire qui, d'une certaine manière, porte la marque d'une histoire socialement un peu propre. Enfin, vous voyez, il y a le récit social qu'on fait, et il y a en quelque sorte la vraie histoire qui est habitée par des émotions. Et j'allais dire, enfin, pour avoir déjà fait pour une part ce travail en thérapie, comme bien d'entre nous, quand on se raconte sa vraie histoire, c'est assez difficile de ne pas éprouver d'émotion. Enfin, c'est forcément habité par quelque chose, mais ce n'est pas l'histoire sociale. C'est la vraie avec les cailloux sur lesquels on bute, les peurs, les colères, les tristesses, etc. Et finalement, est-ce que nous avons déjà fait, chacun d'entre nous, ce travail qui consiste à se raconter sa vraie histoire?
Alors,
Alors ça, on le fait en thérapie par morceaux, puisque c'est un peu l'objet de la thérapie.
oui, et puis
Mais
qu'est-ce que c'est que sa vraie histoire?
là,
C'est-à-dire qu'en
bien sûr,
fonction
qu'est-ce que c'est que sa vraie
de
histoire?
notre histoire, c'est un kaléidoscope. Hein, quel que soit l'endroit d'où on la regarde, on pourra la réécrire ou l'interpréter différemment.
Alors, bien sûr, vrai, c'est un mot qui veut pas dire grand-chose, mais en tout cas, quand je dis vrai, je veux dire la plus authentique possible, avec des souvenirs émotionnellement chargés, autre chose que l'histoire sociale qu'on raconte à droite et à gauche. Et en fait, en commençant cette interview, je me disais, c'est vrai que notre histoire, c'est déjà en soi un récit qui n'est pas du tout évident. La dame dont vous parliez tout à l'heure, qui a mis l'accent sur, enfin, qui a mis un, enfin, dont vous parliez d'un événement de sa vie, elle a déjà, comment dirais-je, l'honnêteté vis-à-vis d'elle-même et l'authenticité de se dire, ce truc-là m'est arrivé, j'en ai souffert et j'en souffre encore, et il s'agirait de le nettoyer. Mais
Oui.
c'est déjà élaboré, parce qu'en
Tout à
fait,
fait.
est-ce que nous avons déjà. Je pense qu'un indicateur pour nos auditeurs, peut-être, c'est quand chacun d'entre nous, si vous vous racontez votre propre histoire de vie et que vous éprouvez rien en vous la racontant, à mon avis, il doit manquer pas mal de choses.
Bah, d'ailleurs, comment dire, le fait d'être coupé de ses émotions, c'est un des symptômes des traumatismes. Le traumatisé peut avoir plusieurs symptômes, pardon, dont le déni, l'évitement, qui sont les pires parce que justement, on a du mal comment dire,
Décelé.
à les déceler et puis à les cerner. Quelqu'un qui va souffrir, qui va pleurer, qui va être anxieux, qui va faire des cauchemars, il sait qu'il a un problème, enfin, même s'il a
Oui,
du mal à se l'avouer.
il y a des
Alors que,
stimulus, voilà.
voilà, alors que quelqu'un qui a eu un gros trauma peut tout à fait être complètement dans le déni, planer complètement. On le voit chez les gens distraits, d'ailleurs, souvent, il y a des choses derrière qui les ont coupés d'eux-mêmes à un moment donné. Et donc, en effet, c'est compliqué. Par contre, un thérapeute voit bien. Enfin, un bon thérapeute, je veux dire, va tout de suite s'apercevoir que là, il y a quelque chose, on tourne autour de quelque chose, où il y a un trou, justement, dans la façon de dérouler l'émotion. Il y a un moment donné où quelque chose s'arrête, comme si le film était coupé. Si le film était coupé, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qu'on n'a pas voulu voir.
Ouais. Et peut-être un indicateur intéressant, je trouve, c'est si on arrive déjà à se raconter sa propre histoire et qu'on constate qu'il y a des moments. Imaginons par exemple, il y a un an, je me rappelle, j'ai très peu de souvenirs sur cette année-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est pas un indicateur de quelque chose?
Ça peut, oui, ça peut.
Hein?
Oui. Il y a des dates dont on n'arrive pas à se souvenir, par exemple. Il y a des gens qui sont incapables de se souvenir en quelle année ils se sont mariés, en quelle année ils ont divorcé ou en quelle année ils ont déménagé ou quelque chose comme ça.
Alors, je pourrais recommander quelque chose qu'on peut faire nous tous, qui est, on peut prendre le temps de se raconter sa propre histoire. Évidemment, ça peut être un peu long, mais ne serait-ce que par morceaux, par exemple, en se disant, bah, lorsque j'habitais telle ville de telle année à telle année, ça a duré 7 ans, voyons un peu ce qui s'est passé je suis tout seul avec moi-même, avec mon papier. C'est intéressant d'écrire. Enfin, en tout cas, moi,
Oui,
dans
tout
ma
à fait.
pratique, je vois que quand les gens écrivent, ensuite, ils se relisent et c'est là où ils éprouvent quelque chose.
Tout à fait.
Voilà, donc le premier point, c'est quel est notre récit le plus authentique possible quand on est tout seul avec soi-même, autre que ce qu'on raconte à tout le monde, en entretien d'embauche, on oublie les trous,
Ou quand
on se valorise
quand on va à
beaucoup,
un rendez-vous
etc., etc.
amoureux, où on va raconter ce qui nous met en valeur.
C'est ça, exactement. Et du coup, alors, moi, je trouve que quelqu'un qui raconte sa vraie histoire, alors, un rendez-vous amical où des personnes sont proches, quelqu'un qui raconte sa vraie histoire avec ses souffrances, avec ses échecs, avec ses succès, enfin bref, une vie, quoi. C'est vachement plus touchant et c'est super intéressant, alors que quand on raconte une suite d'événements qui sont tous réussis et que la personne en face sent bien que c'est pas vrai, en fait, c'est pas, enfin,
Ça sonne creux,
que
ça
c'est,
manque,
voilà,
ça manque
c'est
d'humanité.
emballé dans un beau papier cadeau, c'est pas intéressant.
Parce que
Donc,
notre histoire et faire la paix avec notre histoire, c'est aller accepter de rencontrer tout ce qui dit aussi des choses de nous que nous n'aimons pas. Hein, parce que
oui, alors.
si nous pouvons regarder nos échecs, nos lâchetés, nos instabilités, toutes ces choses dont nous ne sommes pas fiers et pouvoir les intégrer à ce que nous sommes, dire oui, c'est aussi moi ça. Hein. Là, nous pouvons vraiment être en paix. Alors que souvent, nous essayons de nous raconter que nous sommes beaucoup plus équilibrés que ce que nous sommes. Nous faisons une image fausse de nous-mêmes. Et c'est là où on a des problèmes. Parce que si on se fait une image fausse, on va souvent présumer de ses forces ou en tout cas se lancer dans des choses qui ne seront pas adaptées.
Je crois que c'est quelque chose qu'on a répété pratiquement à chaque émission, enfin en tout cas moi, parce que ça me paraît vraiment important, c'est que il faut partir de là où on est. Et il se trouve que de là où on est, c'est là où on est, là où on en est de notre histoire, mais là où on en est vraiment, c'est-à-dire si j'imagine que je peux sauter à 3 mètres parce que je suis sur un plot qui avance de 2 mètres, donc c'est facile, sauf que je ne suis pas sur un plot qui avance de 2 mètres, il faut vraiment que je fasse le grand saut, et j'y arrive pas. Bah oui, mais c'est normal, parce que je pensais que j'étais sur un plot alors que j'y suis pas. C'est un peu de ça dont on parle. Donc voilà, quelle est notre vraie histoire? Et je pense que c'est déjà une étape où est-ce qu'il y a besoin d'un thérapeute pour ça? Pas forcément. On peut prendre un papier, un crayon et déjà essayer, ou en tout cas de s'enregistrer, enfin bref, de consacrer un petit moment à ça, en tout cas.
Disons qu'il y a quand même beaucoup de gens, et leur vie le montre, qui ont une vision d'eux-mêmes qui est très très décalée en fait. Et le rôle du thérapeute, c'est peu à peu, avec beaucoup de bienveillance, de leur amener à réaliser que ce qu'ils se racontent d'eux-mêmes est pas forcément juste, et en tout cas que dans leur vie, il y a un décalage avec ce qu'ils se racontent d'eux-mêmes.
Ça peut être dans les deux sens d'ailleurs. Moi, dans ma pratique, je vois souvent, enfin, je vois beaucoup plus souvent des gens qui se racontent en moins 10 ans, en moins 10 ans au sens en 10 ans moins, c'est-à-dire qu'en se
En
rabaissant
se
un peu,
dévalorisant, oui,
en se
tout à fait.
dévalorisant. Et c'est d'ailleurs pour ça que le récit de réalisation est important. Et du coup, on n'est pas forcément, puisque là, on parle depuis le début de l'émission du cas où la personne se la raconte pour se la cacher. Mais il y a aussi le contraire,
Tout à
qui va
fait.
d'ailleurs probablement ensemble, qui consiste à avoir comme par hasard oublié des moments qui, par exemple, sont de vraies réalisations, de vrais succès, de vraies puissances, en fait.
Je crois que ça soit dans un sens ou dans l'autre, il y a la question du jugement qui apparaît. C'est-à-dire que faire la paix avec son histoire, c'est sortir du jugement. C'est pouvoir accueillir les émotions qui émanent de tous ces souvenirs, et puis prendre le temps de les apaiser si c'est nécessaire, mais sortir du c'est bien ou c'est mal.
C'est
Hein,
ça.
parce que c'est ça que l'histoire nous dit. Il y a les gentils, il y a les méchants, mais on est les deux. Hein, il y a des moments de notre vie où on n'a pas été à la hauteur de nos propres attentes, de celles des autres. Il y a des moments où c'est les autres qui n'ont pas été à la hauteur de nos attentes. Et c'est tout ce tout-là avec lequel nous devons nous réconcilier. Sortir du jugement. Sortir du je suis mieux, je suis moins bien, je devrais être ça. Pouvoir accueillir simplement, sans rencontrer, sans maître de oui, de jugement, d'étiquette, de critères, parce que chaque qualité que nous avons est l'envers d'un défaut.
Alors,
selon
ceci dit,
la façon dont on va se placer.
Oui, alors, enfin, qualité-défaut,
c'est
encore un jugement, du coup.
Tout à fait, c'est la même chose.
Et, hein. Et c'est vrai que si on se raconte un moment de sa vie où on se dit « Ah, j'aurais pu faire différemment », etc., bon, bah, il se trouve qu'au moment où ça s'est passé, visiblement, soit j'avais pas le choix, enfin, soit je ne me donnais pas le choix, soit j'avais choisi de le faire, alors j'avais plusieurs options. Donc, de toute manière, c'est moi qui suis entier dans ce souvenir qui m'apparaît. Alors après, bon, si je vous entends bien, quand on a ce souvenir en tête, ce qui est la question de notre première partie d'émission, il faut déjà qu'on arrive à le refaire surgir dans son authenticité, ce souvenir avec l'émotion qui va avec, etc. On peut se donner le choix de ne pas le juger. Et de dire, voilà, je le pose là, j'ai fait ça ou j'étais ça, il m'est arrivé ça à ce moment-là, et puis voilà, alors ça peut générer telle et telle émotion, on peut fondre en larmes, on peut se mettre en colère, et probablement c'est la meilleure façon de se la raconter. Du coup, pas facile de le faire tout seul, ça, quand même.
Et oui, parce que si on est encore blessé par quelque chose, c'est qu'on n'a pas pu s'en défaire parce que la charge émotionnelle était trop difficile. Le cerveau humain est intelligent dans le sens qu'il a un fonctionnement.
Il est économe.
Qui est économe absolument, voilà, c'est le mot. Et il va éviter ce qu'il fait souffrir. On a plein, Freud en a très bien parlé, on a plein de stratagèmes merveilleux qui nous permettent de ne pas voir ce qui nous fait souffrir, de ne pas le sentir, et puis surtout de nier quand les autres nous mettent notre merde sous les yeux. Mais non, c'est pas vrai, c'est toi, c'est l'autre, c'est pas vrai. Vrai, tu exagères, tu es agressif, etc. Pourquoi? Parce que ça fait trop mal. Et donc, il faut trouver le moyen d'être suffisamment accompagné, soutenu avec de la bienveillance pour pouvoir aller traverser nos propres ténèbres. Et les traverser, là encore, sans les juger. Les traverser parce qu'il y a une souffrance derrière. S'il n'y a pas de souffrance, on n'a pas besoin de faire la paix. Elle est là. La paix, c'est l'absence de souffrance. Et j'ai une petite phrase de la merveilleuse Christiane Singer que je voudrais partager avec vous, mais elle n'est pas la seule à avoir dit ça. « Seul celui qui a osé voir que l'enfer est en lui, y découvrira le ciel enfoui. C'est le travail sur l'ombre, la traversée de la nuit, qui permettent la montée de l'aube. » Pourquoi? Parce que traverser nos nuits, nos ombres, toutes ces zones de notre histoire qui sont douloureuses et donc qu'on a tendance à éviter, c'est aller retrouver une énergie de vie, un courant de vie qui a été interrompu. C'est toujours la façon dont le traumatisme fonctionne. À un moment donné, quelque chose se coupe, s'arrête, et la vie s'arrête. Et toute cette partie-là, elle est gelée dans notre vie. Il y a une partie de l'image de nous qui est abîmée. Alors, on ne va pas pouvoir réaliser certaines choses. Il y a une partie de la confiance en l'autre qui est gelée. Alors évidemment, dans le lien avec l'autre, ça va poser un problème. Et pour pouvoir aller dénouer ça, pour pouvoir aller... C'est comme quand vous avez une coupure d'eau chez vous. Hein, à un moment donné, pour rétablir, il faut bien que quelque chose se passe. Ça ne se rétablit pas comme ça. D'accord ?
On appelle le plombier.
Voilà.
Ou le thérapeute. Hein.
C'est un peu la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'il faut aller... comprendre là où ça s'est bloqué.
Et finalement, imaginons quelqu'un qui ait fait ce travail, imaginons la dame dont vous parliez tout à l'heure, qui a fait ce travail sur cet épisode de sa vie.
Alors, elle n'en est pas encore là. Elle a juste été contactée, le fait que, là, en fait, ce qu'elle a contacté dans un premier temps, c'est cette douleur énorme qu'elle avait complètement refoulée d'avoir été rejetée. On en est juste là, dans un premier temps. Elle a contacté cette douleur effroyable du rejet. La question de l'image, je ne l'ai pas encore évoquée avec elle. Si elle m'écoute, elle gagnera du temps. Mais il faut y aller très, très progressivement. Mm-hmm. Parce que si on n'arrive pas à prendre le temps d'apaiser cette horrible souffrance d'avoir été rejetée injustement en plus, hein, d'abord, elle va contacter la tristesse. En plus, elle se rendra compte que c'est injuste. Après, elle comprendra que peut-être ce jugement, du coup, elle peut le rejeter à son tour. et se dissocier de ce jugement et s'interroger enfin sur, se demander qu'est-ce que je pense moi de cette histoire. Est-ce que c'était si horrible ce que j'ai fait? Évidemment qu'elle va arriver à la conclusion que pas du tout. Et du coup, elle va retrouver sa droiture, elle va retrouver son droit à l'existence, son droit à se montrer, parce que du coup, elle a honte. Et c'est un processus qui prend du temps.
Le processus dont vous parlez sur l'apaisement en fait de cet épisode ressemble un peu à un processus de deuil, avec au départ un déni, c'est-à-dire qu'on a du mal à se le raconter, etc., etc. Enfin, la tristesse, le marchandage au sens où on fait comme si ça n'existait pas alors que ça existe quand même, ou le contraire. C'est un peu le déni à l'envers, en fait. Un peu le deuil à l'envers.
Oui, parce que un deuil, le processus du deuil...
C'est de faire revivre quelque chose qui, justement, était mort, ou en tout cas gelé. Alors que le deuil, c'est d'accepter que quelque chose qui a vécu meurt. Mais il se trouve que les deux se ressemblent. Hein.
Et dans le deuil d'une personne, on doit réapprendre à vivre sans la personne. C'est-à-dire, on doit aller se permettre de ne pas mourir avec la personne. Donc, traverser aussi cette passage.
Et là, c'est le contraire. Ce là, on apprend à vivre avec cette partie qui était gelée ou morte.
Tout à fait. Et du coup, à la voir autrement.
Et du coup, alors là, c'est là où je voulais en venir. C'est que l'un des bénéfices, rien que dans le récit qu'on peut en faire, c'est que, alors, je ne parle pas du cas de cette personne, mais tel épisode douloureux qu'on n'arrivait pas à se... enfin, qui était trop douloureux à se raconter, l'un des bénéfices justement de faire la paix avec son histoire, ça peut être de pouvoir se raconter cet épisode en ayant, en quelque sorte, nettoyé l'émotion qui allait derrière ou exprimé l'émotion qui y avait derrière, de manière à pouvoir le regarder les yeux grands ouverts en se disant « c'est moi, il m'est arrivé ça, je suis passé par là », sans en dissociant en quelque sorte le récit de l'émotion qui allait avec et du jugement qui allait avec. Donc je pense qu'en fait, on gagne en quoi ? C'est pas de l'objectivité, parce que ça veut rien dire en l'occurrence. On gagne en paix, oui. Bah oui
on gagne en objectivité aussi, je pense, en tout cas en ouverture d'esprit. Parce que l'émotion, elle teinte forcément la façon dont nous allons nous raconter notre histoire. Pour reprendre l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, la personne, elle est aux prises avec la honte. Et le poison qu'est la honte, c'est vraiment un poison terrifiant, la honte, fait que justement, on n'a plus de notion réelle de son identité. La honte, elle nous coupe de notre identité. C'est comme si on la reniait, on la vomit. Donc, on ne peut plus être objectif par rapport à soi-même. Et donc, il va être question de pouvoir retrouver un regard sur soi-même nouveau, épuré, nettoyé de l'émotion.
Ce que vous dites sur la honte me fait penser à quelque chose que j'ai entendu chez certaines peuplades inuites où les adultes se servent, alors instinctivement, parce qu'ils n'ont pas forcément lu les psychanalystes, mais instinctivement, ils se servent de la honte qui peut être plus puissante qu'un instinct de survie. Et en fait, quand les enfants petits marchent sur des endroits glacés, alors que les petits n'ont pas encore... Ils n'ont pas encore l'instinct et l'intuition pour savoir à vue si la glace est assez épaisse pour eux. Et si jamais l'enfant va marcher sur un endroit qui est trop fin, évidemment les adultes le surveillent, mais si la glace se casse et qu'il commence à s'enfoncer dans l'eau, etc., ils le récupèrent et ensuite, pour lui éviter de recommencer, ils lui font honte. Et du coup... alors là, pour le coup, ils utilisent la honte comme un processus quasiment plus puissant que l'instinct de survie. Je vous rappelle que nous sommes avec Anne-Catherine, nous sommes un petit peu au-delà de la moitié de l'émission, le temps passe vraiment très vite, Anne-Catherine Sabas, nous sommes dans le cycle En route vers la paix, et nous parlons ce soir de faire la paix avec son histoire sur Radio Terra Zen, naturellement. Je vous rappelle qu'Anne-Catherine a un site www. anne-catherine-sabas.com voilà, donc nous étions en train de parler de la manière dont on se raconte son histoire qui en elle-même est tous les écueils qu'on a dans la façon dont on raconte l'histoire, chaque écueil est intéressant thérapeutiquement parlant nous en étions à voilà, quel bénéfice on peut avoir de nettoyer hein, ou d'apaiser un moment de son histoire qui manifestement est un endroit où il y a une inflammation.
Oui, et puis si nous rencontrons une partie de notre histoire dont nous ne sommes pas fiers, tant que nous n'aurons pas accepté de la regarder, nous ne pourrons pas la mettre en mouvement. Et ça, c'est un grand principe. Tout ce contre quoi vous luttez, vous le renforcez. Vous allez vous raconter que vous êtes nul, que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, les regrets, les remords, etc. Et vous vous enfermez vous-même, vous vous ôtez la possibilité de changer. Alors que si vous allez rencontrer cet épisode de votre vie, cette erreur, cet échec, peu importe quel nom vous lui donnez, d'une manière justement un peu plus objective, vous pourrez faire la paix avec ce que vous êtes, parce que votre histoire, c'est aussi une émanation de ce que vous êtes. S'il s'est passé ça, c'est souvent parce que vous y avez contribué. Et aller réaliser qu'on en est là parce qu'on y a peut-être contribué, c'est aussi se donner l'autorisation de faire la paix avec soi-même, de s'absoudre, hein, de s'innocenter, et donc d'apprendre à repartir sur des bases différentes.
Oui, accepter de regarder un épisode de son histoire, c'est partir de là où on est, ou en tout cas de là où on était, mais de là où on est en fonction des limitations qu'on se traîne depuis ce fameux épisode dont on est en train de parler, par exemple.
Voilà.
Et que si cet épisode, on arrive à le regarder avec amour, en fait.
Et avec philosophie. Hein. On ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout connaître. Et nous avons encore des années devant nous pour apprendre et pour réussir ce que nous n'avons pas encore réussi.
Et finalement, c'est notre partie, j'allais dire, belle, lumineuse, à nous tous, qui peut nous permettre, enfin, c'est cette partie-là qu'il est bon d'arriver à voir, en fait.
Voilà. Hein,
c'est-à-dire qu'on n'est pas, tel épisode, la dame, par exemple, a eu tel traumatisme, mais ce traumatisme, c'est pas elle. Elle n'est pas son traumatisme. Enfin, elle est autre chose. Elle est tout à fait autre chose que ça, beaucoup plus beau, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus
Absolument.
Intéressante, beaucoup plus tout ce qu'on veut. Et c'est cet être-là qui a été abîmé par le traumatisme.
Et qui s'est perdu de vue, en fait.
Et qui s'est perdu de vue, et qui, donc, quand il regarde l'histoire dans le rétroviseur, il y a cette personne belle. Alors, c'est peut-être un peu rousseauiste ou un peu tout ce qu'on veut, mais enfin, j'y crois fondamentalement. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de personne mauvaise.
Il y a une personne belle qui est cachée par une interprétation erronée, subjective et douloureuse.
C'est ça. Et il me venait une image, c'est comme si lorsqu'on rapproche son doigt de son œil.
Alors vous êtes, j'imagine, tous en train de le faire,
voilà.
Hein, moi je le fais évidemment.
Et qu'on ferme l'autre œil de manière à ne regarder qu'avec l'œil droit, par exemple, évidemment, si le doigt, on le met à 1 cm de l'œil, on cache tout un pan de la pièce derrière. Et du coup, ce souvenir-là qui est le doigt, quand je me retourne et que dans mon histoire je vois ce souvenir-là tout près de mon œil, il me cache toutes les belles choses qu'il y a derrière. Et je suppose qu'en thérapie, une partie de votre travail consiste à faire en sorte que la personne soit éloigne son doigt, soit bouge son œil.
Tout à fait. Oui.
Alors, une fois que, qu'on a saisi un des épisodes douloureux de son histoire avec lequel on veut faire la paix. Est-ce que, suivant que lui est associé de la colère, de la tristesse, de la peur, de la honte, etc., est-ce que c'est les mêmes manières de procéder pour s'apaiser ?
Alors vous savez, tout ça, c'est tout sauf un processus intellectuel, déjà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles.
Bon, je parle de pratique. En tant que thérapeute, par exemple, quand vous voyez arriver... est-ce que vous avez, ma question est un peu générique, mais est-ce que si le souvenir comporte une émotion qui est de l'ordre de la colère ou plutôt de l'ordre de la tristesse, est-ce que c'est des manières de faire qui se ressentent? Enfin, comment vous faites? Si, sans trahir de secret
Je
professionnel.
trahis absolument rien. C'est pas des choses qu'on peut mettre dans des petites cases, en fait. C'est difficile de répondre à ça. Un être humain
Ouais.
arrive avec un ensemble de traumas. En fait, ce qui me met sur la voie, c'est de regarder la vie de la personne et comment elle est avec elle-même. Et la façon dont une personne se comporte avec elle-même, ça veut dire comment elle se tient, comment elle est capable de croiser votre regard, combien de masques il y a sur son visage. Ça, c'est très intéressant de voir les masques des gens qui se forcent à sourire, qui vérifient en coin si vous les regardez pas, si vous êtes bien beau, si vous avez le ventre plat, machin. Tout ça, ça raconte comment est la personne avec elle-même. Et à partir de ça, évidemment, il y a des choses qui se dégagent. On voit s'il y a de la honte, s'il y a de la culpabilité, s'il y a de l'agressivité, s'il y a, etc. Et on va amener la personne petit à petit à raconter des choses. Mais il n'y a pas d'un côté la colère et d'un côté la tristesse. C'est des choses qui sont bien plus mêlées et qui vont être tirées par le bout qui est accessible. C'est-à-dire que d'elle-même, la personne va se soulager de quelque chose. Et c'est ça, nous, qu'on favorise simplement.
D'accord. Bon, alors, je mets des mots dessus parce que le simple fait de dire des mots sont des petites cases, d'une manière ou d'une autre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que lorsque la personne, par exemple, vous avez en thérapie quelqu'un qui arrive à un de ces nœuds de son histoire, j'imagine que enfin, un passage obligé, en quelque sorte, consiste à recontacter
Oui, tout à fait, absolument.
l'émotion, hein.
Oui.
Alors évidemment, il n'y a pas de processus, il n'y a
Alors
pas de 1, 2, 3,
après,
4,
oui.
mais voilà. Enfin,
Alors après, en fonction de la personne, il y a des gens qui sont les rois du déni, par exemple, et il va falloir aller presque leur prouver que là, ils ressentent quelque chose. Alors ça, c'est parfois un peu fatigant, mais là, on va en effet essayer d'adapter notre attitude à la personne et justement à ce qui pourrait l'empêcher de contacter, à ses résistances en gros. Il y a des gens qui vont être tellement dans l'émotion qu'ils vont oublier de comprendre ce qui est en train de se jouer aussi. Donc là, il va falloir les ramener un peu au contraire dans quelque chose d'intellectuel. Mais la plupart du temps, notre rôle, c'est simplement d'être là, d'accepter, de rester là avec la personne dans l'émotion le temps qui sera nécessaire. Et pas forcément de verbaliser, hein, d'aller contacter, d'aller vider le truc. C'est très très important ça.
Et ce qui veut dire que dans ce passage, tant que la personne n'a pas contacté l'émotion, le travail ne peut pas encore beaucoup avancer, finalement.
Tout à fait. Et il y a des fois où, et
Ça peut être long. Enfin,
ça peut être très
j'imagine,
très
ça doit
long.
prendre plusieurs séances
Mais oui, parce
de.
que ça dépend de l'histoire de la personne. Quelqu'un qui a été 10 fois trahi et qui a été trahi par des thérapeutes, par exemple, moi j'ai une patiente qui avait été, comment dire, abusée, on peut le dire, abusée sexuellement par un psychiatre, qui lui avait fait des avances, qui avait réussi à la séduire, et puis qui avait commencé une relation avec elle et qui l'avait ensuite jetée comme une vieille chaussette, alors qu'elle était en pleine dépression.
Oui,
Après, c'est compliqué de faire confiance à un thérapeute.
bah.
Elle ne pouvait pas aller voir un thérapeute homme, par exemple. Donc là, elle a passé du temps à essayer de vérifier si elle pouvait avoir confiance en moi avant. Et tant que ça s'est pas installé, on ne va pas chercher quoi que ce soit. Ce qui est important, déjà, c'est que ce lien soit suffisamment solide pour que la personne puisse accepter d'aller contacter des choses difficiles.
Et du coup, en apaisant. Par exemple, pour cette personne, en apaisant la question de la confiance ou la question de est-ce que je peux me laisser aller avec ou quelque chose comme ça, enfin, bref, le faisant dans cette situation-là, évidemment, cet apaisement rejaillit sur 1, 2, 3, 4, 5, 10, 25 épisodes de
Tout
son
à fait.
histoire qui sont avant ou après, enfin, sûrement avant d'ailleurs, d'un coup.
Et
Et
il
donc,
arrive d'ailleurs qu'il y ait des séances, moi j'en ai vécu il n'y a pas très très longtemps, où en une demi-heure, la personne vous raconte son avortement, son viol, son abandon, son petit frère qui est mort. Et c'est comme si son inconscient avait tellement attendu ce moment pour se soulager, qu'il a perçu que là, les conditions étaient réunies et que le thérapeute pouvait accueillir ça. Et c'est comme s'il vomissait, hein. Et il n'est pas question d'élaborer quoi que ce soit, mais juste de se soulager dans un premier temps.
c'est ça. Et alors, on peut imaginer que la personne ayant passé ce cap peut à nouveau avoir la force, j'allais dire, d'ouvrir les yeux et de regarder des épisodes qui, dans son histoire, peut-être tout à coup, peuvent lui apparaître, alors qu'avant, ils ne lui apparaissaient pas parce que peut-être trop douloureux. Et le fait de s'apaiser comme ça peut permettre aussi de tout d'un coup de retrouver des morceaux d'histoire, probablement.
Tout à fait, absolument. Oui, parce que nos jugements, ou les jugements que les autres ont portés sur nous, vont nous amener à refouler.
C'est ça. Alors là, nous sommes aux trois quarts de notre émission. Le temps passe vraiment très très vite. Je vous rappelle que nous sommes avec Anne-Catherine Sabas pour l'émission mensuelle sur la psychologie. Nous sommes dans le cycle En route vers la paix. Et ce soir, nous parlons de faire la paix avec son histoire.
Excusez-moi, il y a quelque chose de bien. Faire la paix
Allez-y.
avec son histoire, c'est aussi. Alors, on a parlé beaucoup des choses qui doivent être guéries, évidemment. On est dans une émission de psychologie. Mais faire la paix avec son histoire, c'est aussi aller retrouver des choses merveilleuses que nous avons faites. Vous en parliez tout à l'heure quand vous accompagnez les gens qui sont en mutation, comment je sais pas comment on appelle ça,
En
en
réorientation.
réorientation professionnelle, c'est aller se rendre compte de toutes ces choses merveilleuses que nous avons faites et qui sont uniques en fait, pour récupérer des morceaux de nous. Les chamans parlent de récupération d'âme, de morceaux d'âme. Moi j'aime beaucoup ça, parce que quand il y a des choses qui ont été blessées, figées en nous, c'est comme si un bout de notre âme, un bout de notre personnalité était parti, elle était dans un coin, en haut du plafond, flottante, ou alors à 3 pieds sous terre, dans le cercueil de notre arrière-grand-mère. Et il va être question d'aller récupérer ça, d'aller récupérer cette chose merveilleuse que j'ai faite il y a 25 ans et que j'ai complètement oubliée et qui finalement parle de ce que je suis et de ce que je peux encore être et devenir. Hein, donc c'est remettre les pièces du puzzle en place pour redevenir l'être complet que je suis. Jung parlait de l'homme total et il disait que le but de ce travail alchimique de psychothérapie, c'était de retrouver l'homme total, de se reconstruire, hein, de récupérer toutes ces parcelles éparses de notre âme, de notre personnalité, qui finalement nous empêchent de nous épanouir à notre pleine mesure, qui nous font nous réaliser un peu dans un coin, mais pas dans l'autre. Hein. Et quelque chose de l'ordre de la réunification. C'est ça faire la paix avec son histoire. C'est réunifier, réunir toutes ces facettes merveilleuses de ce que nous sommes, de ce que nous avons été, pour s'apercevoir finalement il y a quelque chose de très cohérent là-dedans.
Et pour le coup, ce dont on parle, c'est-à-dire la réappropriation de beaux moments de son histoire, qui, en vous écoutant, je me disais quand même, les beaux moments de notre histoire passent, évidemment, passent par de la joie, enfin, du partage, etc., et aussi par des réalisations, donc de l'action. Je me disais, quelqu'un qui aurait pensé toute sa vie sans faire le moindre geste, peut difficilement raconter grand-chose. Enfin, à un moment donné, il s'agit quand même de faire quelque chose. Et là, c'est le contraire de tout à l'heure où l'un des buts de ce travail que vous faites avec les patients consiste à éloigner le doigt de l'œil, c'est-à-dire de ne pas faire, de cesser de faire en sorte que le traumatisme cache tout le paysage. Lorsqu'il s'agit de réalisation, c'est un peu le contraire. Il s'agit justement de les réintégrer parce que
Oui.
autant on peut dire que la personne n'est pas son traumatisme, elle est beaucoup plus que ça, autant on peut dire que elle est chacune de ses actions.
Tout à fait. Mais regardez en
Parlez-moi.
Orient, par
Oui.
exemple, quelqu'un qui va avoir passé 25 ans dans une grotte à méditer sera beaucoup plus considéré qu'une espèce d'hyperactif chef d'entreprise qui va courir dans tous les
Bien
sens
sûr,
et faire plein de choses.
bien sûr.
Hein?
Alors, bon, là, évidemment, on parle avec une grosse brosse. Enfin, on oppose l'action permanente à la contemplation absolue.
Voilà.
Donc, évidemment, personne d'entre nous n'est ni dans l'un ni dans l'autre. Mais en tout cas, ce que je constate, moi, dans ma pratique, c'est que le fait que les personnes se réapproprient leur réalisation,
Oui.
et puis on ne parle pas de pensée, on parle de réalisation professionnelle ou personnelle, c'est un exercice qui est très, très nourrissant. et recollant, justement. Moi, c'est le mot, ça m'évoque vraiment quelque chose. C'est-à-dire que lorsque la personne se réapproprie et regarde ce qu'elle a écrit en disant je savais pas que j'avais fait tout ça, c'est comme si je sens qu'elle se. Elle se. Comme un onguent, elle se
Elle se recolle,
tapisse
absolument, elle se recolle.
avec ses réalisations. Et je me dis, c'est beau de voir quelqu'un qui. Ça y est, qui réintègre quelque chose qui est elle, en
En fait,
fait.
elle réintègre sa peau. Hein. Notre histoire, elle est inscrite en nous, elle est inscrite dans notre corps, elle est inscrite dans nos cellules. Et en faisant la paix avec elle, nous réintégrons notre enveloppe, nous revenons à l'intérieur de notre corps, de nos sensations, et donc de notre capacité à nous diriger. Hein, parce que si la tête est d'un côté et le corps de l'autre, on ne va pas aller très très loin, on ne va pas pouvoir agir du tout.
Alors, évidemment, dans notre histoire, il y a la partie de l'histoire que l'on peut se raconter parce qu'on l'a vécu et qu'on a les souvenirs qui nous le permettent. Et puis, il y a aussi la partie de l'histoire où on était trop jeune. Demandons à quiconque, à part peut-être quelqu'un qui a médité pendant 50 ans, de se rappeler de ce qu'il a fait, enfin de ce qu'il était, etc., entre 0 et 2 ans. Presque personne s'en rappelle. Et pourtant, il y a là un pan de notre histoire qui est essentiel. Et on peut dire que le récit de notre histoire, qu'on peut se faire aussi authentique soit-il, il y a quand même, pour je pense presque tout le monde, une zone d'ombre pour nous tous, en fait, qui est notre toute petite enfance.
Oui, mais
Et qui donc, voilà, enfin, que faire avec ça, en
on a
fait?
souvent accès à des photos, par exemple. Moi, il m'arrive souvent de demander à des gens d'amener des photos d'eux. Des photos, alors bien sûr, de leur famille, des frères, des sœurs, parce que là, on découvre beaucoup, beaucoup de choses. La façon dont les frères, les sœurs les regardent, par exemple, c'est inscrit sur la photo. On voit tout de suite qui fait quoi et qui domine qui. Et puis, de rencontrer leur propre regard sur une photo. Hein. L'enfant que nous avons été à l'âge de 3 ou 4 ans, il y a quelque chose d'extrêmement innocent et pur en lui. Et retrouver ça, c'est aussi sentir des choses. Et on n'a pas forcément besoin de se raconter ce qu'on a fait quand on avait 3 ans et demi,
Non, mais c'est une manière de
mais il y
parler,
a
mais ça veut
quelque
dire que
chose.
c'est un.
Moi, je sais que chez ma mère, il y a une photo de moi enfant. Et à chaque fois que je la vois, je découvre des choses de moi. Je me dis, mais oui, mais c'est ça que je suis, hein. C'est merveilleux.
Et en fait, ces photos d'enfance, moi, j'ai en tête, me concernant une photo où je suis sur un vélo, je dois avoir un vélo avec deux roulettes, je dois avoir 2 ans et demi ou 3 ans dans une allée de jardin. Quand je l'ai revu il n'y a pas si longtemps, des souvenirs se déferlent en fait. Mais peut-être ne déferlerait-il pas si je n'avais pas vu la photo.
Tout à fait.
C'est-à-dire que ça passe directement du regard
À la
à la
mémoire, hein.
mémoire, celle sur laquelle, enfin, celle par laquelle on n'a pas accès par les mots justement.
Voilà, c'est le système limbique, ce sont les émotions, ce sont des parfums, ce sont des ambiances et des choses qui, là encore, n'ont pas besoin d'être nommées pour qu'on puisse se réapproprier quelque chose. On voit souvent ça dans les groupes de thérapie, il y a des choses qui se passent, des choses qui ont été contactées, et la personne après, elle n'est pas la même. Et elle ne comprend pas pourquoi. Alors nous, avec le recul, on voit, on sait ce qu'il fallait qu'elle traverse, on voit ce qu'elle a traversé, donc on peut comprendre. Mais il y a quelque chose qui s'est remis en place, qui a été recontacté, hein, comme un feu qui a été rallumé, en fait. C'est ça, parce que tout au long de notre histoire, qu'est-ce qui se passe? Il y a cette vie qui avance en nous, qui brûle en nous, et qui est toujours intacte quelque part, et qu'il faut qu'on retrouve.
Et n'oublions pas que notre histoire, elle commence pas à notre naissance.
En plus.
Elle commence avant. Je pensais aux situations de Rebirth que bah, vous connaissez, hein, et où ici, voilà, où il s'agit de faire repasser la personne par un acte de naissance un peu plus conscient ou volontaire. Mais en fait, le fœtus, il est déjà imprégné de souvenirs depuis déjà des mois et des
Bien sûr.
mois. Alors d'ailleurs, ça c'est une question pour tous nos prix Nobel de quelque chose, c'est à quel moment commence notre histoire?
Jamais.
Ah,
Jamais.
si on comment dirais-je, si on donne foi, ce qui est mon cas, à tout ce qui est transgénérationnel, alors ce qu'on est en train de dire, c'est que, enfin, on parle de notre histoire individuelle, mais en fait, il se trouve qu'elle commence probablement et très probablement avant notre naissance.
Bien sûr, elle commence à la première bactérie qui est apparue dans l'océan, notre histoire. C'est pour ça que je voulais dire, je disais jamais, en fait, elle commence toujours, elle commence de toute éternité.
Bah, elle se nourrit de l'inconscient collectif.
Absolument.
Alors bon, évidemment, là, l'inconscient collectif, on n'a pas grande prise dessus à titre individuel, mais c'est vrai que dans cette émission, on se limite à ce qui est notre histoire à nous, enfin, disons, voilà, entre notre naissance et le moment où on est maintenant. Nous approchons du terme de notre émission. On a déjà fait 55 minutes. Je vous rappelle que nous avons notre prochaine émission au mois de juin. On abordera le thème qui est Porter la paix dans la tourmente, le 7 juin, mardi 7 juin à 21h30. On continue sur le cycle de la paix. Alors, on va atterrir en pente douce pour clore notre émission sur faire la paix avec son histoire. Finalement, vous avez beaucoup parlé pendant cette heure du fait que moi j'ai introduit l'émission par le mot récit, qui donc veut dire qu'il y a des mots, qu'on se raconte quelque chose. Vous avez attiré notre attention sur le fait que c'est pas forcément du récit, puisque bah, ça peut passer directement par un processus émotionnel. On regarde une photo, des émotions arrivent sans qu'on puisse mettre de mots dessus. Et en fait, en quelque sorte, tout est bon.
Regardez ce qui se passe en archéologie, par exemple.
Ouais.
Hein? Il est rare qu'on trouve un livre qui explique qu'il y a 400 millions d'années, telle tribu a déposé tel os qui avait telle vertu. Hein?
Ah, surtout les 400 millions d'années.
Surtout il y a 400 millions d'années. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a des choses qui sont consignées, des mémoires hein, qui sont inscrites dans la matière. Et notre histoire, c'est ça avant tout. C'est des choses qui se sont inscrites en nous, des mémoires, des informations et auxquelles nous pouvons avoir accès. Il y a des gens qui ont, je ne sais plus comment on appelle ça d'ailleurs, cette capacité, en touchant un objet, de vous raconter l'histoire de l'objet. Ils peuvent vous dire, ah oui, tiens, cette tasse, tu l'as achetée à l'île de Ré en 1912. Hein? Et souvent, c'est vrai. C'est-à-dire qu'ils ont accès à une information qui est contenue, c'est une vibration, c'est quelque chose, bien sûr, qui est impalpable. Mais ils peuvent entendre ça. Et notre histoire est quelque chose d'extrêmement subtil qui va agir comme des distorsions vibratoires à certains moments. Et c'est ça qu'il s'agit de réaccorder, comme un instrument qu'on irait réaccorder, en fait.
C'est ça. Et on peut voir notre histoire finalement comme l'ensemble de toutes nos empreintes.
C'est ça. C'est
Chercher
exactement
un
ça.
mot
Voilà, c'est
voilà, qui
ça.
rassemble le tout,
C'est ça. Des
empreinte,
engrammes, des
des
empreintes.
empreintes, des empreintes, ça peut être des souvenirs, des couleurs, des sons, des mots, tout ce qu'on veut. Tout à l'heure sur Facebook, je regardais un post qui m'a mené avec un lien vers des photos où c'était l'intitulé c'était 100 photos, c'est des vieilles photos jusqu'à il y a 150 ans et qui sont colorisées. Et le
Oui.
fait de voir, alors je ne sais pas si ça vous fait la même chose, mais pour moi c'est très très marquant, le fait de voir une photo de 1860, par exemple de Darwin, où on voit le personnage en noir et blanc, et ensuite où on voit la même photo en couleur, c'est comme si la photo en noir et blanc c'est quasiment mort. Et la photo en couleur, elle est toute proche. Il pourrait presque là être à côté de nous, alors que le noir et blanc, établit une espèce de distance. En quelque sorte, c'est comme si le noir et blanc fait disparaître l'émotion, ou en tout cas, pour moi, une grande partie de
Oui,
l'émotion.
oui.
Et du coup, il y a moins d'empreintes, en
On est
fait, en
peut-être
noir et
aussi
blanc.
tellement habitué maintenant à la couleur.
Bah, c'est surtout parce qu'on se voit quand même en couleur
Tout à
réelle.
fait,
Enfin, voilà.
oui.
Voilà, et donc
Bon.
l'histoire étant la somme de nos empreintes, en quelque sorte, tous les moyens qui permettent de voir ces empreintes sont bons,
Et oui.
des mots, des souvenirs,
La,
des
les voir
photos,
sans jugement,
les
hein,
voir sans
j'insiste
jugement,
beaucoup là-dessus.
et bien évidemment, l'aide d'un psychothérapeute est bienvenue, parce que penser qu'on peut faire tout ce processus tout seul avec sa propre histoire, voilà, c'est un peu, c'est placer la barre un peu haut.
Et puis notre histoire n'est pas finie. Et moi, j'ai envie de vous quitter ce soir sur ce merveilleux titre d'un livre de Jean-François Vézina, un psychologue canadien, qui a publié un livre qui a un titre merveilleux, qui est Tout se joue avant 100 ans. Hein, parce que Freud nous disait que tout se jouait avant 6 ans, mais non, tout se joue avant 100 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là maintenant, vous pouvez faire la paix avec votre histoire. Et si vous n'y arrivez pas, vous pourrez le faire demain, vous pourrez le faire dans 10 ans, vous pourrez le faire dans 20 ans. Tout ça n'est pas fini et on a toujours la possibilité de réécrire des choses, de dénouer ce que nous avons besoin de dénouer ou pas. Et puis de laisser la nature faire aussi les choses qu'elle a à faire à son rythme. Hein, parce qu'on ne peut pas faire la paix de force, sinon c'est plus de la paix.
C'est une belle conclusion. Merci Anne-Catherine.
Merci Olivier, merci à tous.
Je vous souhaite une belle soirée sur Radio TerraZen. Nous rendons l'antenne et nous vous disons au mois prochain, je vous rappelle, mardi 7 juin, 21h30, comme d'habitude, pour l'émission qu'on intitule Porter la paix dans la tourmente.
Bonne
Belle soirée
soirée!
à tous.
Thank you.